Radio École. Une émission avec les écoles du Diwa. Sur Air Diwa.
Erdiwa présente Vivre ensemble, leçon numéro 1 des écoles de notre territoire. Drôme, France, planète Terre. Pays d'Iwa. Depuis l'un des studios mobiles de Erdiwa, toujours confiné, je vous propose d'entendre un dialogue dont j'ai pu capter la matière au cours de cette sixième semaine de confinement 2020, pandémie de Covid-19. Vous entendrez donc là les institutrices et instituteurs de quelques écoles publiques de notre territoire, Aurel, dit Minglon, Sainte-Croix, pays. Coronavirus. Vous ferez également la connaissance de trois des élèves de CM2 scolarisés dans ces mêmes écoles et qui en ont eux aussi une très bonne connaissance puisqu'ils la pratiquent depuis longtemps, pour certains depuis la maternelle. Et ils s'apprêtent d'ailleurs à la quitter pour le collège de Die, la sixième, l'année prochaine. Drôme, France, planète. Vous entendrez ou réentendrez peut-être Monsieur Albert Jacquard, chercheur de son état qui, de son vivant, a fait de l'école l'un de ses sujets de réflexion et qui nous aura bien fait rêver. Vous vous souvenez ? Vous entendrez, vous danserez peut-être de temps en temps avec la fanfare joyeuse Les Sergents Pépères. Oui, parce qu'il en faut de la joie. Vous vous souvenez ? Mais c'est aussi un parent d'élève que vous allez découvrir, parce qu'elle rêve tout haut et qu'elle dit.
Je rêve que nos enfants voient naître un monde où nous nous sentons tous responsables et non victimes de ce que vit l'humanité, dans ses aspects les plus beaux et les plus sombres.
Marion.
Un monde où nous pouvons ressentir à quel point là où en est le monde reflète là où on en est individuellement, dans nos qualités et nos défauts. Et si nous considérions qu'on fait partie d'une grande histoire commune, d'un même grand organisme dont nous sommes les cellules? Cellules d'un foie, d'un poumon, d'un cœur, où chacun a son rôle et a pleinement confiance dans le fait que les autres cellules font tout ce qu'elles peuvent pour le bon fonctionnement de l'organisme.
Qu'est-ce qu'on fait de ces cellules qui sont toxiques pour l'organisme?
Ouais. Je dirais que plus on est nombreux, plus il y a de cellules en bonne santé, à être dans quelque chose de sain, et plus c'est contagieux aussi, et moins ça laisse la place à des cellules toxiques.
C'est plutôt une période particulière, mais je crois qu'elle l'est. Elle l'est pour tout le monde et pour tous les enseignants, pour tous les élèves. Je crois que
Fanny.
Chacun a son expérience propre. On va dire que nous, en classe unique, on est, en tout cas à Aurel, on est assez privilégié, je dirais, parce que on a en face de nous des enfants qui bénéficient d'un extérieur pour la plupart. Soit ils ont un jardin, soit ils ont une belle nature environnante. Donc ça. Du coup, on a des enfants qui arrivent à gambader, à courir, à se défouler un peu. Donc, on a plutôt en face de nous des enfants qui restent joyeux. On voit que se développe une multitude d'activités extraordinaires, hein, que ce soit des activités nature, de jardin, en cuisine, de sport, de jeux en famille, en solo. Donc c'est assez épatant de voir toute cette imagination et tout capacités que les enfants ont et que les familles ont pour faire des choses ensemble, ça c'est quand même assez extraordinaire.
Oui, donc finalement on voit un petit peu le lien qu'il y a entre l'environnement finalement et la santé
oui,
psychique et la santé tout court finalement.
Oui, je pense que ça y contribue beaucoup. Après, on a quand même un retour général des enfants qui est, on a quand même des moments d'ennui où on n'aime pas le confinement, on peut pas voir nos copains, et ça revient régulièrement. Donc c'est des enfants qui vont dehors, qui font plein de choses, mais ça, il n'empêche que le lien n'est pas là. Enfin, le lien avec les copains, on a beau s'appeler par tous les moyens de communication, les enfants ont beau s'appeler entre eux aussi, ça ne remplacera jamais le lien qu'on peut avoir, et aussi le vivre ensemble, puisque c'est quand même l'essentiel de l'école, et je dirais de l'être humain, c'est pas d'être confiné, donc c'est vrai que ça revient quand même, mais on a cette chance d'avoir quand même en face de nous des enfants qui ne vivent pas trop mal les choses, on va dire.
Alors je voulais donc savoir ce que pour un instituteur comme toi, d'une petite école dans la Drôme, et puis mais qu'est-ce que ça voulait dire pour toi, vivre ensemble, et puis finalement, comment tu l'imaginais, ce vivre ensemble ?
Christian.
C'est partager tous les moments, quoi, que ce soit les grands moments comme des voyages, mais aussi les petits moments comme partager un taille-crayon. Voilà, et puis tout ça, c'est à la fois un apprentissage dans les relations avec les autres, les autres personnes qui sont présentes avec soi, puis c'est aussi un partage d'émotions et d'expression de ces émotions, quoi. Alors c'est sûr que en ce moment, là on partage des choses via Internet, hein, tu vois, les enfants ils font des travaux manuels, ils trouvent des recettes, où ils trouvent des chansons sur Internet, des photos, tout ça, voilà, on partage tout ça, c'est une petite partie du vivre ensemble, mais c'est pas en direct, quoi, il y a un côté très artificiel quand même dans ce partage-là. Là, et ça manque de réactivité, on va dire. Voilà.
Il n'y a pas les regards.
Voilà, oui, il n'y a pas les regards, tout le langage, ouais, du corps, quoi. Je veux dire, c'est le regard, mais aussi les gestes, les mains, les sourires, c'est sûr. Moi, je dis assez souvent aux enfants que voilà, dans une école, on apprend des choses, voilà, on apprend que 2 + 2, ça fait 4, mais c'est vraiment pas le plus important à la limite, quoi. Hein, les enfants qui savent coopérer, qui savent se débrouiller, qui savent trouver des solutions ensemble, hein, qui savent s'écouter. Je pense que c'est ce qui les aidera peut-être encore plus tard dans leur vie de grands et avant d'être grands aussi. on profite quand on est en classe, quand on est ensemble en classe, on essaye de profiter de chaque instant pour faire vivre ça. Ça peut être ça peut être à un moment donné de classe collective où on échange sur des choses qu'on a vécues avant ou qu'on prévoit de vivre plus tard, ou ça peut être sur des moments qui sont pas prévus en classe où un échange amène une discussion, amène un partage. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que quand on est ensemble, on peut rebondir sur ces moments-là de manière spontanée. Et là, malgré tout ce qu'on peut mettre en place en ce moment, cette spontanéité, de toute façon, elle n'y est pas. Et du coup, on perd de nombreuses expériences, de nombreuses occasions de vivre ça.
Et quand je dis aller à l'école, pas nécessairement comme élève. Aller alternativement comme élève et comme professeur. Pour moi, l'école, c'est pas seulement le lieu où on apprend du savoir. on apprend à compter, orthographe, tout ce que vous voulez, l'histoire, elle reste, mais c'est un lieu où on apprend à échanger. C'est ça la définition de l'école, toute réflexion faite. C'est que pour devenir quelqu'un, il faut échanger avec les autres, échanger des idées, des opinions. Alors tu penses ceci, moi je pense cela, on discute. Mais c'est très difficile d'accepter l'échange. Et le lieu où on l'apprend, pour moi, c'est l'école.
Par rapport à l'école,
Anthony.
Bah, déjà, de les ouvrir, comme ça on voit nos copains, mais avant de rentrer, nous désinfecter les mains, porter un masque, au moins des précautions, et de partir à l'école, quoi. Au moins ça. Monsieur Macron ou Macron, enfin, j'aimerais bien qu'on puisse retourner à l'école, quoi, s'il vous plaît. Je suis énervée. Très clairement, je suis énervée parce qu'on peut rien faire. On peut vraiment rien faire. Et ça, c'est très très chiant. On voit plus personne, on voit plus nos familles, on voit plus nos amis, on voit plus nos maîtresses, donc c'est ça qui est très dommage.
Ressort particulièrement en ce moment de confinement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a de la part des enfants d'une manière générale une grande autonomie de travail qui est due à la façon dont on est obligé de travailler en classe unique, c'est-à-dire on est forcément obligé d'en lâcher certains et d'aller avec d'autres, donc il y a cette autonomie qui se développe et qui est assez accrue en classe unique et tout l'intérêt aussi c'est que nos élèves, on les connaît très très bien, ça fait plusieurs années qu'on les suit, on sait exactement comment ils sont d'un point de vue scolaire, et puis on a l'habitude de travailler de manière très individualisée avec eux, donc à chaque enfant, on adapte ce qu'on peut leur donner à faire.
L'important à l'école, c'est qu'on y apprenne à échanger, à s'ouvrir à l'autre. Il dit des choses qui nous semblent fausses, « Ah, répète-moi !» Pourquoi tu dis ça? Moi, je pense le contraire. On ne se bat pas, mais on avance tous les deux, on se transforme. Alors, une vie, ça n'est jamais qu'un échange tout au long. C'est exactement ça. Mais encore faut-il peut-être avoir des bonnes conditions pour que cet échange soit profond.
L'école, c'est ça avant tout. C'est le vivre ensemble, c'est la mixité, c'est s'entraider, c'est... Et là, dans ce cadre de confinement, on essaye au mieux d'entretenir ce vivre ensemble, mais ça ne remplacera jamais les conditions d'une classe où on est là tous ensemble. Donc c'est assez révélateur quand on parle de télétravail ou enfin d'école à la maison. On fait tous de notre mieux, mais ça ne remplace jamais. Un contact direct, ça c'est évident.
Oui. Alors, tous les matins où il y a école, je réserve ce petit temps avec mes élèves pour se faire un petit coucou, on va dire par ordinateur, donc sur Skype en ce moment. Donc les enfants se connectent, on prend le temps de se faire un petit coucou, on a le droit d'être en pyjama, de se présenter déguisé. L'idée, c'est de ne pas perdre de lien pour les enfants entre eux et puis les enfants avec moi. Et voilà, donc on a ce petit rendez-vous le lundi, mardi, jeudi, vendredi avec les élèves de ma classe. On fait ce petit coucou en vidéo. Alors c'est pas très long, hein, c'est 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Ça dépend un petit peu des enfants. Et puis voilà, on prend le temps de se faire un petit coucou pour... C'est pas parce qu'on ne se voit pas physiquement qu'on pense pas les uns aux autres et d'essayer de maintenir un lien quand même de classe, même si on ne travaille pas ensemble. Et ça permet aussi aux parents qui auraient des questions à me poser sur des exercices ou d'autres choses. C'est peut-être parfois plus facile de me les poser comme ça, de vive voix, que par mail, dans le cadre de la continuité pédagogique.
Voilà. Encore faut-il être tous équipés de Skype et puis d'une
caméra.
C'est
le problème. Alors l'avantage, c'est que tous les parents de ma classe ont au moins un ordinateur ou une tablette ou un smartphone. C'est vrai que j'ai fait le sondage avant. Ce qui manque le plus, c'est les imprimantes. Imprimer les exercices, c'est plus compliqué pour eux. Mais ils ont tous accès, toutes les familles ont accès à Internet. C'est la grande chance que j'ai au sein de ma classe.
Oui, et puis avec des parents qui savent se servir d'Internet et puis de ses fonctionnalités, quoi.
Oui, alors après, ça m'est arrivé aussi, j'utilise une application sur mon téléphone portable, mais depuis le début de l'année, pour avoir un lien avec les familles. Et au début, bon, moi, j'ai fait un peu des tutos aux parents pour leur expliquer comment ça fonctionne. Et la plupart s'en sont saisis, et voilà, c'est vrai que ça fonctionne bien pour garder le lien.
Oui, c'est un outil qui est intéressant, là, du coup, dans cette situation.
Oui. Oui, oui. Bah, disons que moi, j'ai pas attendu cette situation pour communiquer avec les parents par ce moyen informatique, puisque en maternelle, on voit les parents d'élèves quasiment tous les jours. En élémentaire, bah non. C'est un peu comme un drive, en fait. Avec Vigipirac, les parents déposent leurs enfants devant l'école, et puis on a très peu de contact avec les parents. On les voit quand il y a la remise des bulletins, la remise des évaluations, ou quand il y a quelque chose qui va pas et dont on doit parler. Mais voilà, sinon, on est moins amené à voir les parents d'élèves. Donc ça permet d'avoir voilà ce lien. Même si on ne se voit pas tous les jours au portail, eh ben on garde un lien par ce biais-là.
Voilà, et donc on peut imaginer quelques limites à ce fonctionnement, mais en tous les cas, ils rendent de grands services.
Oui, ben, c'est sûr que c'est toujours problématique pour les familles qui ne sont pas outillées, ça c'est indéniable, mais tout comme l'ordinateur, souvent il y a un ordinateur par maison, par famille, et puis ben, quand il y a papa ou maman qui est en télétravail, plus les enfants qui doivent aussi travailler sur l'ordinateur, c'est vrai que c'est compliqué.
Ben oui. Bon, et que du coup, effectivement, on est loin d'être tous égaux.
C'est le gros problème de cette situation, c'est que les enfants qui ont le plus de besoins, c'est ceux qui vont être encore pénalisés par la situation, puisqu'on ne peut pas répondre. Enfin, on essaye en différenciant les exercices, les choses comme ça, pour la question des difficultés, mais pour la question des moyens, effectivement, c'est très compliqué d'y répondre.
Mais j'espère que ça sera bientôt fini et qu'on va pouvoir reprendre l'école.
Eva, alors cette école justement, comment tu y penses? C'est quoi comment tu aimerais en parler de cette école?
Moi, cette école, je l'aime bien. Enfin, moi, je suis là depuis la grande section. Donc depuis que j'ai 5 ans à peu près, j'y suis. Donc, je l'aime bien. Enfin. On est bien, enfin c'est peut-être pas si grand que ça, mais il y a tout ce qu'il faut, il y a des tableaux, il y a du matériel, il y a nos bureaux, il y a nos chaises, hein, donc moi je l'aime bien et c'est pour ça que j'espère y retourner.
Et oui, et tu sais que là, à la rentrée de septembre, tu vas la quitter cette école pour aller au collège de Die.
Ouais. Bah du coup oui, ça me rend un peu triste. De changer d'un coup, mais bon, on s'y prépare, on sait qu'on va bientôt partir, donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, hein, faut grandir. C'est comme ça, hein, nous, c'est clair qu'on va passer de 10 à 30 dans une classe, et en tout, ça, c'est immense le nombre, je sais pas exactement, mais ça va faire un changement, oui, mais j'espère qu'on va vite s'y habituer, qu'on va vite trouver notre place. Je trouve, moi, oui, pour moi, c'est important d'avoir sa place au milieu des gens.
Bah, c'est toujours à Macron. Déjà, de nous laisser sortir plus.
Isabelle.
Alors cette première tranche de confinement, c'était déjà, je pense, comme tout le monde, très particulier. Il a fallu qu'on s'adapte très très vite parce qu'on a été prévenus un jour avant la fermeture des écoles qu'on allait être confinés. Alors au départ c'était 15 jours. Donc il a fallu très vite préparer des choses en une journée. Et après, au fur et à mesure des semaines, ben voilà, il a fallu énormément rassurer les familles qui étaient très inquiètes. Donc on a rassuré les familles, on a essayé, enfin j'ai essayé de pas surcharger les élèves de travail parce que c'était pas le but non plus qu'ils passent des heures à travailler, surtout que fallait souvent faire avec un ordinateur, donc c'est pas évident parce que tout le monde n'est pas équipé. Donc l'idée c'était vraiment de faire les choses calmement, sereinement. Voilà, je disais aux familles que j'étais là, qu'ils pouvaient m'appeler. Voilà, ensuite on essayait d'avoir des nouvelles toutes les semaines des élèves et des familles aussi pour les rassurer. Et puis petit à petit, voilà, on a mis en place un travail à distance qui s'est plutôt bien passé. On a repris, on a fait surtout des bases hein, en maths et français. On n'a pas vraiment avancé, mais ça c'est pas grave. Et on a aussi travaillé, enfin on a fait un mur où on a partagé toutes nos bonnes idées, qu'elles soient en sciences par exemple, sur l'observation de la nature, parce que c'était en plein changement. C'était aussi les petites recettes, ils se sont partagés des recettes, ils se sont partagés des idées de bricolage, des idées de peinture, voilà. Donc en fait l'idée c'était surtout ça, c'était de se dire ben, on garde le lien, et pour garder le lien, ben, on va partager ce qu'on fait. Voilà.
Qu'est-ce que tu as observé là chez tes élèves là dans ce lien que vous avez réussi à tenir ensemble au travers de ces activités scolaires? Comment ils ont vécu ça?
Alors ils ont aimé hein, partager les choses. C'est vrai qu'ils étaient contents. Heureusement d'ailleurs qu'il y a eu ce partage-là, parce qu'à chaque fois qu'on mettait des nouvelles des autres, j'avais l'impression que ça les remotivait. Après, le contact physique avec les autres, ça nous manque à tous de pas se voir, et on n'a qu'une hâte, c'est de se revoir, parce que souvent les élèves ils me disaient mais j'ai l'impression d'être tout seul à travailler, et ce qui fait la classe c'est ça, c'est qu'on est ensemble, on se donne des billes, on s'aide, on est solidaires, et là en fait il y a les parents derrière, alors heureusement qu'ils étaient là hein, parce que sinon on n'aurait rien pu faire. Donc les parents sont là et ils aident aussi hein, mais c'est pas les copains, donc forcément ça pouvait être plus conflictuel souvent, et puis moins de motivation chez les élèves. Donc le fait de partager nos petites trouvailles, nos petites recettes, ça redonnait un peu d'envie de faire les choses, un peu d'envie de faire des recherches, donc ça c'était plutôt pas mal.
Est-ce que cette période là comment cette période te permet de penser à ton travail d'institutrice? Est-ce que ça vient alimenter une réflexion sur ta manière de faire et sur le sens que ton travail d'institutrice a aujourd'hui, peut-être autrement en tous les cas?
Alors, je travaillais déjà pas mal en autonomie et je me suis aperçue que c'était vraiment bien, parce que les enfants ont pu, quand même pour la plupart, on n'a pas trop changé notre façon de faire ce qu'on avait l'habitude de faire en classe. Du coup, on a gardé un peu ce rythme-là parce qu'ils travaillaient déjà tout seuls avec des plans de travail individualisés. Donc ça a pas mal aidé. Donc ça m'a réconfortée là-dedans. Après, sur ma façon de faire, oui, forcément, je me suis aperçue que le lien était plus que indispensable, parce qu'on n'est pas là, il y a eu une espèce de frustration quand on recevait les choses et qu'on n'avait pas l'élève en face pour dire, pour être tout de suite là, pour rattraper les erreurs et dire, mais si, rappelle-toi, on l'a fait, et puis reprendre avec lui, et puis là, avoir la lumière dans les yeux des élèves, ça, c'est juste, c'est ce qui fait notre métier, c'est un métier de l'humain, et notre présence est juste indispensable. Et c'était très dur de pas les avoir en face de nous quand on recevait les tests, quand on recevait les exercices et qu'on voyait qu'il y avait des erreurs et qu'on pouvait pas leur expliquer. Donc le lien il est primordial. Chaque enseignant ça peut l'a en lui. Je veux dire, on veut donner le meilleur à nos élèves et on veut qu'ils soient heureux. Et du coup, on cherche. Enfin, je veux dire, on est des chercheurs, hein. Donc, à chaque fois, on essaye de s'améliorer, on essaye de discuter entre collègues sur les méthodes, sur comment on s'y prend, on teste des choses, on recommence. Je veux dire, c'est la base de notre métier. On cherche. On est des enseignants, on est des chercheurs dans l'éducation. Donc on cherche. Après, c'est sûr qu'on est en manque de formation cruellement. Donc on n'est plus du tout formé. Et ça c'est très difficile. Après, on a quand même la chance ici dans le Diwa d'être dans un secteur quand même plutôt agréable avec des effectifs qui sont pas surchargés. Et du coup, on arrive quand même à faire un travail de qualité. Donc voilà. Après, c'est sûr que on peut toujours faire mieux. Mais je pense que s'il y avait quelque chose assez d'urgent à changer, ça serait notre formation, parce que ça va très vite, parce que la société, les enfants, voilà, changent, et on a besoin d'être formés, on a besoin d'échanger entre nous, et tous ces temps d'échange sont des temps pris sur notre temps personnel. Alors on est motivé, donc on le fait sans problème, mais si on pouvait avoir des journées où on pouvait échanger entre nous, partager nos idées, aller voir les collègues, aller voir ce qu'ils font, ça enrichit. Et c'est ce que moi je demande à mes élèves. Je leur demande de regarder les autres, d'échanger leurs idées pour avancer. C'est comme ça qu'ils avancent. C'est parce qu'ils s'aident, c'est parce qu'ils sont solidaires les uns avec les autres, parce qu'ils coopèrent, parce que voilà, ils s'apportent énormément entre eux. Et c'est vrai que nous, on perd ça. On n'a plus ce temps-là, on n'a plus le temps de se former entre nous. Et là, par contre, il va falloir ça que ça change, parce que ça nous manque terriblement. Ce que je mets vraiment en avant, la chose, le principal vraiment que j'essaye de leur dire, c'est d'être ensemble et d'apprendre ensemble. Et apprendre ensemble, ça veut dire ne pas se comparer, mais c'est s'aider et dire, bon bah voilà, accepter les différences et dire, bah voilà, moi je suis bon en dessin, si tu veux, je peux t'apprendre. Et puis inversement, dire, bah moi c'est les mathématiques et je peux t'apprendre les mathématiques. Et l'idée, c'est ça, parce que je veux dire, moi je fonctionne comme ça, je veux dire, j'irai chercher les bonnes personnes. Si je veux fabriquer, je sais pas moi, si j'ai besoin, un jour par exemple je veux faire du pain, bah j'irai voir la bonne personne pour m'expliquer comment je veux faire du pain. Et je leur explique que c'est ça la vie, qu'on avance les uns avec les autres et que dans une classe c'est ce qu'il faut faire. Il faut coopérer et il faut s'aider et qu'on peut pas être bon de partout. Par contre, on peut s'améliorer de partout en allant chercher les bonnes personnes. Et j'essaye de leur montrer qu'ils sont tous capables de faire plein de choses, qu'ils ont tous leurs spécificités. Et que j'essaye du coup de trouver le bon chez tout le monde. On a tous une place, et c'est ça que j'essaye de leur faire comprendre, c'est qu'ils ont tous une place, ils ont tous un talent, et qu'il faut, voilà, on le trouve, l'école c'est fait pour ça, on le trouve et on le partage, et on est fiers de ça, on est fiers d'être bon là-dedans, et on est heureux de le partager, comme on est heureux d'aller chercher chez l'autre bah, quelque chose dans lequel on est moins à l'aise, et on va progresser aussi. Je veux dire, c'est pas parce que je vais être... excellent en mathématiques, par exemple, que je vais me bloquer en dessin. Ben non, je vais aller voir celui qui est bon en dessin et puis ben, je vais m'améliorer et puis je vais être heureux de m'améliorer en dessin parce que finalement, j'étais pas si bon que ça. Et inversement, j'essaye vraiment de travailler là-dessus, sur la coopération et de se dire, ben, on a tous une place et maintenant, on va vivre ensemble, on va partager, on va s'améliorer. Et j'essaie de leur dire que moi, je fonctionne comme ça. Voilà, quand je ne sais pas quelque chose, ben, je vais aller trouver le bon outil, la bonne personne pour m'améliorer, pour apprendre. Il faut absolument qu'on arrête le système scolaire de la compétition. Il faut que les enfants comprennent qu'ils sont là pour s'aider, pour travailler ensemble, pour coopérer, pour être solidaires et d'avancer comme ça. Voilà. Il faut plus que les enfants soient en compétition. Ça les rend malheureux. Dans une compétition, il y a forcément un premier, forcément un dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on serait dernier parce que on n'est pas bon en maths, alors que d'être bon en dessin, d'être bon en musique, mais moi ça m'aurait fait rêver d'être doué en dessin, d'être doué en musique. Je veux dire c'est aussi formidable, et je veux dire c'est pour ça qu'il faut arrêter la compétition, parce qu'on a tous un talent et il faut que l'école voilà elle fasse comprendre ça aux élèves et qu'ils soient heureux dans leur talent, tout en sachant qu'il faut voilà être heureux aussi de progresser. Là, on est moins à l'aise, mais c'est ça qui fait qu'on est bien dans la vie. Je veux dire, moi, je suis très contente quand je progresse dans des choses où je suis moins douée. Voilà, c'est ça la vie, et l'école faut qu'elle transmette ça. Il faut plus qu'on soit dans un système de compétition. Il faut vraiment qu'on soit dans un système de coopération et de solidarité. Et c'est ça qui va rendre heureux les élèves. Et c'est ça qui va faire que les classes vont tourner, parce qu'il n'y aura plus de compétition. Et à partir du moment où il n'y a plus de compétition, il y aura moins de conflits. C'est sûr. nos enfants que voilà, vivre en société, c'est partager et coopérer et être solidaire.
Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent essentielles, Manolo?
Ben, le contact, le rapprochement.
Est-ce que tu vois d'autres choses qui te semblent importantes?
Ben, surtout être toujours créatif, faire des jeux de société et rester libre.
Donc, être créatif et être libre, ça, est-ce que ça va bien ensemble, ça, non?
Ben, moi, je trouve que c'est un peu pareil. On reste libre tout en étant créatif. Ben, si t'es pas créatif, tu construis rien, tu tournes en rond et t'avances pas.
Et l'école, tu crois que c'est un endroit qui soutient ça, la liberté?
Dans certaines écoles... Oui, comme la mienne, mais dans peut-être d'autres écoles, non, je ne suis pas allée dans toutes les écoles. Je peux pas savoir.
Et en quoi elle soutient la liberté, cette école?
Ben, elle nous laisse fabriquer des choses, inventer, et puis souvent on transforme le travail et tout ça en des jeux, et ça c'est vraiment super.
Vous transformez le travail en jeu.
Oui.
Donc le jeu, ça c'est important.
Ben, si t'as l'impression que c'est tout le temps dur et que tu te dis « Ah, j'aime pas travailler, c'est trop dur », et ben t'avanceras pas. Alors que si tu te dis que c'est un jeu et que c'est super, ben là, ça ira tout seul.
S'amuser, c'est ce qui permet d'être créatif?
Ben, comme tout à l'heure, s'amuser, c'est ce qui permet d'être créatif, et être créatif, c'est ce qui permet de s'amuser aussi.
Ouais. Et finalement, d'être libre.
Et oui, et donc les trois vont pas sans les deux autres. Je trouve qu'il faut s'amuser tout en restant calme et créatif, et qu'il faut pas se dire que c'est du travail, c'est dur, et que jamais j'y arriverai. Il faut se dire, je vais le transformer en un jeu, en quelque chose de chouette. Et pour ça, faut aussi être en lien avec les autres. Et ça, c'est bien.
Moi, en tout cas, ça fait 20 ans que j'enseigne. J'ai là une qualité de travail extraordinaire, un plaisir à avoir aussi une certaine liberté de mouvement, et puis ce contact que j'ai avec les enfants qui est primordial, essentiel, où il y a vraiment la coopération prend tout son sens. Et je trouve que c'est une chance extraordinaire, et il faut se battre pour que ces petites structures déjà perdurent, et puis qu'il y en ait d'autres qui se créent. On peut toujours l'espérer, en tout cas. La configuration actuelle ne va pas en ce sens, parce que chaque année, il y a des écoles, enfin des classes uniques qui sont remises en question par rapport au peu d'enfants qu'il peut y avoir dans les classes uniques, mais en tout cas, pour moi, ça a vraiment tout son sens. Je trouve que il y a un terrain expérimental d'une richesse extraordinaire qu'on se doit de défendre, ça c'est sûr.
Pour devenir moi, j'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin de tisser des liens avec lui. Dès que je suis en compétition avec lui, je ne tisse plus de liens. Et par conséquent, je suis en train de me suicider. C'est ça qu'on devrait nous dire. Toute compétition est un suicide.
C'était Vivre ensemble, leçon numéro 1 des écoles de notre territoire. Avec Anthony, Christian, Eva, Fanny, Isabelle, Manolo, Marion et Marie. Une réalisation de Vincent pour Erdiwa. À bientôt.
Un espace de jeu dans lequel nous pouvons apprendre les uns des autres, tous ensemble.